Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Dans votre émission cette semaine, nous revenons sur la deuxième session de la Grande Commission Mixte Maroc-Cap-Vert qui s'est tenue mardi dernier à Rabat. 9 accords de coopération ont été signés à cette occasion. Parmi eux, celui portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements, ainsi que sur la suppression réciproque de visas entre les deux pays. Vous aurez les détails dans un instant, ainsi que des réactions à l'occasion du forum d'affaires organisé avec le patronat marocain. Notre invitée de la semaine s'appelle Ramatoulaye Goudjabi. Elle est la directrice de l'Africa Financial Industry Summit. Avec elle, nous parlerons des évolutions attendues dans le secteur financier sur le continent. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, la deuxième session de la Grande Commission Mixte Maroc-Cap-Vert s'est tenue mardi dernier à Rabat. 9 accords de coopération ont été signés à cette occasion. Parmi eux, celui portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements, ainsi que sur la suppression réciproque de visas entre les deux pays. Je vous propose d'écouter à l'occasion du forum d'affaires organisé avec le patronat marocain, des membres du gouvernement capverdien, ainsi que le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib El Hadj.
Oui, nous sommes ici dans cette forum économique capverdien Maroc pour renforcer une nouvelle ère. Ça signifie faire des choses très différentes, pragmatiques, avec plus d'intensité au niveau économique, au niveau des investissements, du commerce, du tourisme, parce que nous sommes très intéressés à faire l'attraction des investisseurs, d'avoir plus de relations commerciales et aussi inviter les Marocains à visiter Cap-Vert, à connaître le pays, parce que nous sommes proches, 3 heures de vol. Nous avons des vols directs, Casablanca, Praia, à travers Air Maroc. Et cette forum, c'est pour se présenter, présenter le pays, les potentialités, notre localisation, les secteurs privilégiés et prioritaires, et voir comment on peut faire le développement de tout ce que sont des secteurs intéressés à investir au Cap-Vert, dans le secteur économique, d'investissement, du commerce.
Nous savons qu'il y a beaucoup de complémentarité entre nos économies sur le plan de l'industrie, sur le plan du tourisme, les énergies renouvelables et bien sûr aussi l'agriculture. Nous allons signer aujourd'hui une convention avec mon confrère du Cap-Vert et je suis sûr que ça va ouvrir une voie à une nouvelle ère de partenariat et de coopération. Surtout que nous avons déjà une liaison aérienne qui est déjà opérationnelle et je pense que ça va pousser les hommes d'affaires marocains et capverdiens à venir plus se connaître et plus partager leurs expériences.
Zoom Express.
Direction la Côte d'Ivoire, où la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2023 s'annonce du 12 au 16 décembre prochain à Abidjan. Cette 9e édition, lancée récemment par les organisateurs, portera sur la thématique architecture durable et industrie. On fait le point à Abidjan avec Mel Berchel et Ferdinand Kouakou.
Dans moins de 7 mois, les professionnels de l'industrie, de l'aménagement, de la décoration et de l'habitat du Côte d'Ivoire et du continent seront en attraction à Abidjan, capitale économique ivoirienne. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat. Lors de la cérémonie de lancement, le président du Conseil de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a dégagé les enjeux de l'événement. Joseph Hamon, président du Conseil de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire.
Nous avons rendu compte qu'au fur et à mesure que les années passent, ce n'est plus simplement à regarder notre petit espace qui nous environne, mais il faut commencer à regarder un peu plus large. Nous parlons aujourd'hui de l'espace ouest-africain, mais demain nous allons parler très rapidement de l'espace africain. Et demain, ou après-demain, on va viser également l'espace mondial. Pourquoi est-ce que nous serons toujours des importateurs de matériaux alors que nous avons tout un potentiel économique, minéral et autres très fort et que nous pouvons aller au-delà de nos frontières?
Archibat 2023, baptisé édition de la maturité, se conduira sous le signe de la reconnaissance des industries et des entreprises locales qui, depuis la première édition du salon, ont su montrer leur fidélité et leur savoir-faire. Edgay Echou, responsable logistique.
C'est une édition de maturité. Encore une fois, étaler notre savoir-faire en pensant aux éditions qui peut-être arriveront dans les années à venir, avoir un salon beaucoup plus grand qui draine beaucoup d'exposants et beaucoup de visiteurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. On est à de 13 000 visiteurs, on pense en 2021, on pense en 30 000 visiteurs cette année. Donc c'est un challenge pour nous.
À compter de cette année, Archibat se tiendra dans le hall 1 du parc des expositions, un joyau architectural d'une superficie de 7200 m² ou 232 stands correspondant à une superficie de 2886 m² seront mis à disposition des exposants.
Coémergence, l'invité.
Notre invitée de la semaine s'appelle Ramatoulaye Goudjabi. Elle est la directrice de l'Africa Financial Industry Summit avec nous. Elle va parler des évolutions attendues dans le secteur financier sur le continent ainsi que sur les investissements dans plusieurs domaines. Bonjour à vous, Ramatoulaye Goudjabi, et merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Bonjour, je suis très honorée de participer à cette émission ce matin.
Alors, on va parler de ce secteur financier africain. Pourquoi ? Parce que Deloitte et l'Africa Financial Industry Summit, AFIS, que vous dirigez, publie la 2e édition du baromètre de l'industrie financière africaine. Il s'agit d'une analyse approfondie des défis et des opportunités auxquelles sont confrontées les institutions financières africaines dans un contexte économique mondiale en constante évolution. Alors, Ramatoulaye Goudjabi, cette étude met en lumière les principales tendances et les enjeux majeurs pour les acteurs du secteur financier africain, tout en fournissant des indications sur les stratégies à adopter pour assurer une croissance soutenue et une transformation réussie. Alors, parlez-nous justement de cette étude, de sa méthodologie.
Tout à fait, merci à vous pour cette présentation claire. Alors, le baromètre, on a, comme vous l'avez dit, réalisé en partenariat avec le cabinet de conseil Deloitte, donc pour sa 2e édition, et il a été réalisé dans le cadre de l'Africa Financial Industry Summit qui s'est tenu à Lomé en novembre 2022. Donc, nous avons élaboré avec le cabinet Deloitte un questionnaire afin de comprendre les différents impacts de l'environnement macroéconomique actuel. Donc à l'époque où nous l'avons réalisé, il s'agissait de la crise russo-ukrainienne et de l'inflation, donc l'impact sur l'industrie financière africaine. Donc c'est un questionnaire qui est composé de 5 grands thèmes, le premier étant la stratégie et le business model des players de l'industrie financière africaine, la gouvernance et la gestion des risques, le cadre réglementaire, le développement durable et enfin l'innovation. En termes de méthodologie, donc les 30 questions de ce questionnaire ont été adressées aux dirigeants d'institutions financières, des banques, des assurances, des leaders, des marchés de capitaux, des fintech et des régulateurs. Mmh. L'échantillon a été interrogé via un questionnaire en ligne avec notre partenaire Qualitrics, ainsi que sur la base d'entretiens individuels avec les dirigeants du secteur financier. Mmh. Et on a récolté donc les réponses à ce questionnaire entre le 3 octobre et le 11 novembre 2022.
Alors, je pense que c'est assez clair comme explication. Alors, on entre dans le vif du sujet. Quel jugement portez-vous aujourd'hui sur l'environnement macroéconomique actuel et son impact sur l'industrie financière africaine?
que la résilience des pays africains, elle a été mise à rude épreuve par la succession de facteurs exogènes. Donc on a la pandémie de Covid-19, le conflit russo-ukrainien et puis les effets collatéraux sur les prix et l'accès aux denrées alimentaires, les pressions inflationnistes records. Et dernièrement, on l'a vu au mois de mars, la nouvelle vague de faillite bancaire aux États-Unis et ensuite la panique qui a eu lieu en Europe avec les déboires de Crédit Suisse qui a été racheté par UBS. Cumulé à ça, on a vu les vulnérabilités du système financier international, les inquiétudes récurrentes sur la viabilité des dettes souveraines des pays africains qui sont réapparues. Donc, ce que je peux constater, c'est que depuis 2020, les gouvernements africains, ils ont emprunté presque 30 milliards de dollars via des émissions d'euro-obligations. Ces dernières, elles ont été considérablement réduites à presque zéro au cours des 10 derniers mois, ce qui a créé d'immenses problèmes de liquidité et des difficultés de renouvellement de la dette. Ceci aussi en partie à cause de la dépréciation importante de la monnaie locale dans plus de la moitié des pays africains, dont plus de 40%, pour ne citer que le Ghana, la Sierra Leone et l'Égypte. Donc moi, l'impact que je vois aujourd'hui sur l'industrie financière africaine, le premier impact, c'est l'assèchement de la liquidité. On a des taux d'intérêt pour se refinancer qui sont très élevés, à des niveaux sans précédent, la plupart des dirigeants n'ont jamais connu. Les banques centrales, qui sont prêteuses en dernier ressort dans ce contexte-là, demandent actuellement aux banques d'accroître les prêts interbancaires pour pallier les problèmes de liquidité. Le deuxième impact que je vois, c'est la baisse des revenus des ménages dans ce contexte-là et des revenus des acteurs. On a une hausse des retards et des défauts de paiement qui crée maintenant une hausse des créances douteuses et donc une hausse des non-performing loans, qu'on appelle comme ça, et des provisions pour pallier à ces risques de crédit. Le troisième impact que je vois, c'est l'assèchement du crédit. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, on a moins de crédit sur le marché. Voilà les impacts que je vois. Et alors, en termes de challenge...
Effectivement, c'est des impacts donc, que vous avez listés. Vous en avez listé trois, plus précisément. Cela dit, vous parlez des challenges. Justement, quel est le risque le plus important pour les institutions financières en cette année 2023?
A été mise en exergue dans notre baromètre et qui est souvent discuté actuellement, c'est le risque cyber. On est dans un contexte de digitalisation et d'ouverture progressive des systèmes d'information. Le risque de cybersécurité, comme on le dit, représente encore pour la deuxième année consécutive dans notre baromètre la première préoccupation des institutions. On a une multiplication des attaques et une sophistication accrue de ces dernières. C'est pour ça que l'industrie est inquiète. À cela s'ajoutent d'autres risques. Donc, on a le risque opérationnel, notamment tout ce qui est risque de fraude, qui constitue également un point de vigilance. Et au niveau des risques financiers, on s'attend, surtout dans le contexte actuel, à une détérioration du portefeuille de crédit. J'en ai parlé il y a quelques minutes, à moyen terme, court-moyen terme, à l'instar du précédent baromètre.
Alors, qui parle de risque n'omet pas forcément les faiblesses. Aujourd'hui, quelles sont les faiblesses que vous relevez par rapport au secteur financier africain?
Les faiblesses que je peux soulever, c'est les faiblesses qui sont liées au cadre réglementaire. Aujourd'hui, on a la majorité des normes donc réglementaires qui requièrent, qui nécessitent des améliorations significatives, notamment en termes de systèmes d'information, de cybersécurité. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi dans notre baromètre, et aussi de lutte contre l'évasion fiscale et de protection des consommateurs. Donc ça, c'est vraiment ce renforcement, il est nécessaire à ce niveau-là. Ensuite, ce qui est nécessaire, et c'est ce qui est demandé par les acteurs de l'industrie, c'est que les régulateurs impliquent beaucoup plus en amont des changements réglementaires, ce qui les implique beaucoup plus en amont, ce qui permettra de mieux respecter les calendriers de mise en œuvre de ces nouvelles réglementations. Et enfin, dans les faiblesses, les répondants ont noté qu'ils considèrent que les politiques de change qui sont mises en œuvre par la banque centrale sont plutôt trop restrictives. Mais de manière générale, et pour conclure, je pense que la mise en place de cadres réglementaires et prudentiels internationaux pour les banques africaines, elle est à la fois lente et insuffisante. Son adéquation donc avec les pays en développement fait souvent l'objet de critiques et de remises en cause. Et on voit bien que seulement l'Afrique du Sud, le seul à avoir à être membre du comité de Bâle, par exemple, pour ne citer que cela, et des supervisions bancaires, et l'Égypte ont entièrement, par exemple, mis en œuvre Bâle 3, tandis que très peu d'autres pays ont l'intention de l'adopter dans sa globalité ou à court terme. Donc, je pense que s'il existe un consensus sur l'inévitabilité de la mise en œuvre de Bâle 3, en Afrique, l'industrie financière, elle converge sur l'importance d'avoir un cadre panafricain spécifique avec des adaptations appropriées.
Alors, des adaptations sur le plan réglementaire, mais aussi face à l'évolution technologique. À ce propos, les crypto-actifs dont on parle, sont-ils aujourd'hui considérés comme une menace ou une opportunité? Mais avant tout, essayez quand même de faciliter la compréhension à nos auditeurs. Assez rapidement, il nous reste à peine quelques minutes, Ramatoulaye Goudiaby, pour parler des crypto-actifs. Qu'est-ce que cela veut dire et sont-ils aujourd'hui une menace ou une opportunité pour le secteur bancaire africain?
Alors, vous avez raison de me demander des précisions parce qu'effectivement, il faut faire la distinction entre les crypto-monnaies comme le Bitcoin, les bourses de crypto-monnaies comme tout ce qu'on appelle FTX ou Binance, les jetons utilitaires comme l'Ethereum et les actifs numériques adossés à des valeurs économiques tangibles comme l'or et l'immobilier. Donc, ce sont des jetons adossés à des actifs. Donc ça, ce sont les crypto-actifs. Ils ont la cote. Donc, et ils ont émergé en réponse à l'émergence de tout ce qui est blockchain et nouvelles chaînes de valeurs financières en dehors du périmètre bancaire traditionnel. Donc les institutions financières aujourd'hui, elles se montrent assez optimistes, elles perçoivent ces nouveaux acteurs, ces nouveaux produits comme une opportunité, tant pour les économies africaines que pour l'industrie dans sa globalité. Toutefois, il faut savoir que le marché des crypto-monnaies, il a subi, et vous l'avez vu, notamment récemment au Maroc, il y a eu une crise. Et au dernier trimestre 2022, il y a eu une crise parce qu'il est devenu essentiellement spéculatif. Et en fait, il doit absolument introduire des principes plus fondamentaux du système financier traditionnel basés sur une économie saine et la création de valeur réelle à partir d'actifs économiques réels. Ça, c'est vraiment important. Et la démocratisation de l'usage de ces monnaies numériques ne peut se faire, selon nous et ce que pensent d'ailleurs les interrogés, les répondants donc, de ce baromètre, ça ne peut se faire sans une infrastructure numérique accessible, plus sécurisée et beaucoup plus inclusive, avec en plus un cadre réglementaire.
Merci à vous, Ramatoulaye Goudiaby. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Africa Financial Industry Summit, l'AFIS. Vous nous parliez donc de ce qui attend le secteur financier africain en cette année 2023, qui est déjà presque à sa moitié. Merci d'avoir été avec nous dans Coémergence et au plaisir de vous retrouver très prochainement.
Merci beaucoup à vous.
Destination Éco.
Nous prenons la direction du Gabon, plus précisément à Port-Gentil, la capitale économique du pays, a abrité un forum national sur l'industrialisation thonnière. L'idée du gouvernement est de développer un secteur de la pêche à forte valeur ajoutée pour en faire un levier de croissance économique et de création d'emplois. Les précisions sur les contours de ce forum avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Ce sont deux jours de réflexion, mais surtout de promotion d'une filière halieutique baptisée Gabon Bleu que le gouvernement présente à travers l'organisation de ce forum. Premier du genre en terre gabonaise, il intervient, vous le savez, dans un contexte de lutte acharnée contre la vie chère, basée sur les exigences d'une production à grande échelle dans tous les secteurs et surtout une production proportionnelle à la demande des consommateurs, fort de son potentiel naturel et structurel. Le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime pense que ce secteur recèle d'importantes opportunités d'investissement.
Nous sommes en train de préparer une plateforme en capacité de pouvoir vendre notre domaine maritime. Le président de la République a mis 32 milliards pour créer l'usine Cifrigab. Cette usine est en capacité de pouvoir collecter les 30% de poissons qui nous sont réservés par l'Union européenne dans le domaine thonnier. Mais n'ayant pas la capacité de capter ces ressources-là, on est dans l'obligation de transformer ça en numéraire. Mais dès lors que Cifrigab a repris, Cifrigab est une société qui a toutes les conditionnalités nécessaires, essentielles et indispensables pour permettre une industrialisation sécurisée du thon au Gabon.
Les ressources halieutiques du Gabon représentent environ 1 million de tonnes de biomasse pour une capture actuelle de 1,4%. Les autorités ont donc pris la résolution d'industrialiser ce secteur, longtemps laissé à l'abandon au profit du tout pétrole. Port-Gentil, Ismaël Obiangze, pour Médian.
Merci à vous, Ismaël Obiangze, correspondant de Médian au Gabon. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Médian Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Médian et au plaisir de vous retrouver avec Coémergence la semaine prochaine, Inch'Allah.